Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, le phénomène du co-living. Sera-t-il bientôt pointé du doigt par les parlementaires? Le co-living, ce phénomène qui regroupe ces fameux logements situés dans les grandes métropoles sous forme de colocations et chambres d'hôtel et qui propose des espaces partagés, une cuisine, une salle de sport. Sera-t-il bientôt la prochaine cible des sénateurs et députés? En tout cas, dans la salle des quatre colonnes, les députés peu informés sur le sujet s'interrogent de plus en plus. Après s'être attaqués à la location de courte durée de type Airbnb, plusieurs parlementaires, comme le sénateur communiste Yann Brossa, ont haussé le ton face à la multiplication des espaces de co-living dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux déjà sous tension. Le co-living, c'est le nouveau fléau de l'immobilier à Paris, affirme sans hésitation Yann Brossa dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. D'après une récente étude sectorielle du cabinet Xerfi, ces logements sous forme de colocations et chambres d'hôtel proposent des espaces partagés et progressent de 70% entre 2021 et 2023. Les auteurs de la même étude précisent « L'intérêt des investisseurs institutionnels pour ce type d'actifs est particulièrement important et ne s'essouffle pas ». Ainsi, en 2023, les volumes investis sur ce segment ont dépassé les 430 millions d'euros en France. Pour le communiste Yann Brossa, il n'est pas question de laisser un flou juridique autour de cette pratique, alors que la tension locative ne cesse de s'aggraver dans les grandes villes malgré diverses mesures locales. Nous avons rencontré ce mercredi Emmanuel Grégoire, ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, désormais député de Paris et candidat aux prochaines municipales de 2026 à Paris. Emmanuel Grégoire nous livre son impression sur le phénomène du co-living.
Monsieur le député Emmanuel Grégoire, bonjour. Pourquoi le secteur du co-living est en plein essor et pourquoi est-il peu réglementé ?
Alors, il est en plein essor, c'est un phénomène effectivement nouveau. Il faut savoir que c'est un mot nouveau, mais qui traduit quelque chose en fait d'assez simple. Il s'agit de prendre un grand appartement, de les découper en chambres, d'équiper chaque chambre des services de base, notamment salle de bain et sanitaire, encore que ça peut être partagé, de mettre tout ça dans un cadre très joli et de louer les chambres très chères. Et donc, c'est une façon, on va dire, de maximiser le profit sur un bien immobilier et de transformer d'une certaine manière des grands appartements en petits en location. La cible prioritaire en termes de clientèle, ce sont principalement des étudiants avec un fort pouvoir d'achat et principalement des étudiants étrangers qui trouvent assez pratique de louer 1000 euros une pièce, mais qui bénéficient des commodités d'un appartement en colocation. Le modèle un peu historique, c'est la colocation. Parce que on a la machine à laver, la cuisine, etc. Donc c'est vraiment une opportunité de rentabilité maximale. Et ça pose problème parce que c'est vraiment au détriment de familles plus précaires, de classe moyenne, qui avant pouvaient accéder au marché locatif sur ce type d'appartement.
Quand vous parlez de rentabilité, vous pouvez nous donner des exemples. Qu'est-ce qui se fait par exemple aujourd'hui sur Paris ou qui frôle un peu l'aberration?
Grosso modo, les données de marché qu'on a, c'est que vous avez des locations de chambres tout équipées 1000 à 1200 euros pour une dizaine de mètres carrés. Ce qui est probablement 400 euros au-dessus du prix en location sèche des mètres carrés. Et donc c'est un moyen d'améliorer de 25 à 33% à peu près le rendement économique d'un bien immobilier. Et c'est là que ça devient problématique parce que c'est à la fois spéculatif et spoliatif aussi pour l'accès au marché locatif traditionnel.
Depuis quand vous observez que le phénomène est en train de prendre de la valeur et surtout, quels sont d'après vous les autres lieux, autres Paris, les autres destinations où le co-living se développe ?
En fait, c'est un produit typique d'hypercentre urbain, en particulier dans les villes étudiantes, avec une cible étudiants et jeunes actifs. Donc c'est toutes les grandes villes universitaires qui sont concernées par cette offre.
Par exemple Lille ?
C'est le cas, on le vit, on voit, c'est Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Et en fait, l'une des raisons, c'est tout simplement l'identification par des investisseurs, par des fonds financiers de cette opportunité, qui est une façon en fait de revisiter la colocation, mais de la faire payer très très cher. La colocation, ça existe depuis la nuit des temps, et les étudiants s'organisaient entre eux. Et ça, on va dire, c'est le double effet et de gros investissements dans le secteur de l'immobilier qui cherchent de l'hyper-rentabilité, et aussi des plateformes numériques. Pourquoi ? Parce que les plateformes numériques, ça permet de mettre en relation les gens et de faire, on va dire, du marketing de placement de produits efficace. Et donc, on a l'intention, effectivement, de réguler ça, parce que c'est un phénomène qui est très préoccupant dans les grands centres urbains.
Donc, ce qui implique, d'après vous, plus une procédure législative qu'une décision des élus, des maires ?
Oui, malheureusement, les maires ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens juridiques de l'interdire. D'ailleurs, l'objectif, pas de l'interdire, l'objectif, c'est de le réguler et de faire en sorte que ça ne se développe pas. Et notamment, de ne pas permettre aux investisseurs de faire une culbute financière en chassant des familles. L'exemple typique, c'est vous achetez un 4 pièces, vous chassez la famille qui était dedans au motif que vous allez refaire le bien, etc. Et derrière, vous le transformez en colocation de luxe. Et donc, c'est évidemment très préjudiciable. Donc, on a plusieurs pistes à creuser, mais qui nécessiteront des évolutions législatives. Et deuxième chose, c'est qu'il va falloir agir parce qu'il y a, d'une certaine manière, un détournement de l'esprit de la loi. Notamment parce que quand ils facturent le loyer, ils intègrent au prix du loyer ce qu'ils appellent, on va dire, une facture de service. C'est vous payez à la fois pour les mètres carrés, mais aussi pour le fait qu'on vous fournit le Wi-Fi, ou parfois on vous fournit des abonnements à des plateformes numériques télé, etc. Et cet argument de la fourniture de service justifie de déroger à la règle de l'encadrement des loyers. Et donc, l'une des orientations que nous proposons, Yann Brossa la porte au Sénat et moi je la porte à l'Assemblée nationale, c'est de bien disjoindre ce qui concerne le loyer des mètres carrés et ce qui concerne les factures de services, y compris de pouvoir ne pas y recourir si on le souhaite, de façon à appliquer très strictement l'encadrement des loyers sur les surfaces. Ce n'est pas normal d'avoir des 10 mètres carrés qui sont loués à 1 200 €. C'est pas normal. C'est pas acceptable. Sinon, ça va être la gentrification et l'éviction de tous ceux qui viennent des classes populaires, des classes moyennes dans tous les grands centres-villes. Et donc, on va travailler sur ces sujets-là et essayer de déposer avant l'été une proposition de loi. Et on verra si elle est déposée au Sénat ou à l'Assemblée nationale.
C'est pas encore décidé.
Hein. Non, c'est pas notamment parce que le principe d'une proposition de loi, la déposer n'a pas de sens si on ne crée pas aussi les conditions pour qu'elle puisse avancer et trouver une majorité. Donc on va encore faire ce travail d'explication et de conviction. C'est d'ailleurs très utile que les médias s'en saisissent. Hein, et c'est vrai que beaucoup ont vu le phénomène émerger et se développer à très grande vitesse dans les grandes villes. Voilà, l'objectif, c'est de déposer une proposition de loi avant l'été.
D'ici à cet été, le sénateur communiste Yann Brossa souhaite une proposition de loi pour sortir de cette ambiguïté. Il espère voir des élus de divers bords politiques se joindre à lui pour travailler sur ce texte. En attendant et en écoutant les premières polémiques dans la presse, le texte de Yann Brossa n'a pas encore été déposé et encore moins inscrit à l'ordre du jour.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.